Bonjour Docteur Morgane Richer, vous êtes maître de conférence des universités au CHU de Lille et aujourd'hui vous allez nous parler des méthodes d'assistance circulatoire chez l'enfant et ou le nouveau-né. Alors, première question, quelles sont les indications respectives d'une assistance respiratoire et ou circulatoire chez l'enfant et ou le nouveau-né?
Bonjour et merci pour cette invitation, je suis très honoré. Les indications d'une assistance sont classées en deux catégories, comme chez l'adulte, les défaillances circulatoires et les défaillances respiratoires. Il est bien sûr indispensable d'identifier précisément la défaillance initiale afin de choisir la bonne technique d'ECMO pour permettre une meilleure survie. Nous allons débuter par les assistances respiratoires véno-veineuses chez le nouveau-né et l'enfant, qui possède une double fonction, bien sûr, la décarboxylation et l'oxygénation. Mais elles permettent également chez le nouveau-né de diminuer les résistances vasculaires pulmonaires en cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Concernant les nouveau-nés, les indications sont regroupées en indications néonatales, qui sont l'inhalation méconiale à la naissance, la maladie des membranes hyalines, ainsi que les pneumopathies néonatales. Les autres indications sont les pathologies néonatales entraînant une hypertension artérielle pulmonaire, mais sans défaillance du ventricule droit, représentée principalement par la hernie diaphragmatique congénitale, ainsi que l'hypertension artérielle néonatale persistante. Lorsque les enfants présentent ces pathologies, l'assistance respiratoire pourra être implantée lorsque le traitement médical est maximal, c'est-à-dire comporter l'administration de surfactants, une analgésie sédation efficace, l'utilisation d'une curarisation, la mise en place d'un traitement par monoxyde d'azote, l'essai du décubitus ventral et la prise en charge de tout facteur d'aggravation respiratoire, comme les épanchements pleuraux. Bien entendu, la pathologie doit être réversible avec des séquelles attendues acceptables. Associé à cela, il existe des critères biologiques d'implantation. L'hypoxémie doit être réfractaire, c'est-à-dire que l'index d'oxygénation doit être supérieur à 40 pendant 6 heures ou supérieur à 20 pendant 24 heures. Deuxièmement, l'hypercapnie doit être également réfractaire avec une acidose respiratoire représentée par un pH inférieur à 7,25 et une capnie supérieure à 80 mm de mercure. Concernant les enfants, qui sont définis par un âge entre plus de 28 jours et moins de 18 ans, les pathologies nécessitant une assistance respiratoire sont multiples, allant du syndrome de détresse respiratoire aiguë, primitif, comme infectieux ou toxique, ou secondaire, comme le choc septique, la pancréatique ou en post-réanimation cardiaque. Les autres indications étant les syndromes obstructifs, tels que l'asthme aigu grave, le syndrome médiastinal, les syndromes restrictifs, les patients immunodéprimés, avec une discussion au cas par cas, et parfois les préchirurgies trachéobronchiques. Les critères d'implantation ressemblent à celles des nouveau-nés après un traitement médical conventionnel maximal, dont la ventilation protectrice, chez un enfant ayant une pathologie réversible ou une attente avant une transplantation. Cet enfant, biologiquement, doit présenter une hypoxémie réfractaire, représentée par un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 80 ou un index d'oxygénation supérieur à 30 pendant plus de 6 heures, ou bien un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 50 avec un index d'oxygénation supérieur à 40 pendant plus de 3 heures. Il peut également présenter une hypercapnie réfractaire avec une acidose respiratoire inférieure à 7,20 pendant plus de 6 heures. Concernant les assistances circulatoires, qui permettent de suppléer une défaillance circulatoire et ou cardiaque de patients, les critères de mise en place dans les situations de défaillance cardiaque et ou circulatoire sévère ne font pas l'objet d'un consensus, tant par exemple pour le choc septique ou pour le choc cardiogénique réfractaire. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de définition spécifique à la période néonatale, les experts s'accordent sur l'indication d'assistance circulatoire en cas de dysfonction cardiaque sévère, définie par un index cardiaque inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré, associé à des signes d'hypoperfusion périphérique, clinique et biologique, et malgré une prise en charge hémodynamique maximale. Pour les chocs septiques, certains proposent dans la littérature de discuter l'assistance au-delà de la sixième heure du début, réfractaire à de fortes doses d'amine et associée à des signes cliniques et biologiques d'hypoperfusion d'organes. Pour l'enfant, le niveau de preuve de l'assistance dans cette indication de choc septique reste très faible. En plus, chez nos nouveau-nés, nous pouvons noter les indications d'assistance circulatoire dans les chocs cardiogéniques, notamment les défaillances ventriculaires droites sur l'hypertension artérielle pulmonaire, pouvant aboutir à un bas débit cardiaque secondaire à une diminution du retour veineux pulmonaire. mais également toutes les indications liées aux défaillances cardiaques gauches post-anoxo-ischémiques néonatales. Bien sûr, les cardiopathies congénitales sont également une indication, mais il est préférable de les adresser directement dans un centre de chirurgie cardiaque. Pour les enfants, les autres indications sont les chocs d'origine cardiaque, que ce soit la myocardite aiguë, rythmique, dilatée décompensée ou hypertrophique décompensée. L'arrêt cardiaque réfractaire, dans des équipes bien entraînées ayant anticipé cet événement, représente une dernière indication d'assistance circulatoire. Les recommandations de l'ELSO imposent une période de no-flow inférieure à 5 minutes, écartant bien sûr les arrêts cardiaques survenus sans témoin. Concernant les contre-indications, certaines pathologies au état clinique ne sont pas des indications pour mettre en place une assistance. Il existe des contre-indications absolues, comme les anomalies chromosomiques létales, les atteintes neurologiques sévères et les hémorragies intraventriculaires de haut grade. Néanmoins, l'asphyxie périnatale sous hypothermie contrôlée n'est pas une contre-indication systématique, mais dépend bien sûr du contexte et du risque attendu de séquelles neurologiques. Certains critères sont relatifs, comme une maladie extrapulmonaire sous-jacente, un poids inférieur à 10 kg, une prématurité inférieure à 34 semaines d'aménorrhée. L'augmentation des risques hémorragiques, en particulier les hémorragies cérébrales, en est la principale raison, ainsi que les difficultés techniques pour la cannulation. La présence d'un saignement intracrânien, d'une anomalie congénitale de l'hémostase sont aussi des contre-indications relatives, de même que les hémorragies non contrôlées. La décision, bien sûr, sera collégiale en discutant avec les équipes référentes de ces patients sur le pronostic général lié à leur pathologie sous-jacente. Le meilleur exemple est actuellement les discussions liées aux implantations d'assistance chez les patients immunodéprimés, où jusqu'à très récemment, l'indication chez ces patients était considérée comme une contre-indication formelle au vu des risques infectieux, hémorragiques et de l'évolution respiratoire défavorable vers la fibrose pulmonaire. De récentes études sur la cohorte de l'ELSO montraient une survie globale, toutes causes confondues, de l'ordre de 35%. L'indication chez les patients allogreffés de moelle reste une contre-indication forte, puisqu'il n'y a pas de patients pédiatriques survivant à l'assistance. Mais les nouvelles données de la littérature font à l'heure actuelle discuter au cas par cas la décision d'implantation d'une ECMO chez un patient immunodéprimé.
Deuxième question, quelles sont les particularités de leur mise en place chez l'enfant et ou le nouveau-né ?
L'implantation des canules sur vaisseau périphérique chez les nouveau-nés et l'enfant sont réalisées quasi exclusivement par un abord chirurgical des vaisseaux cervicaux ou fémoraux, réalisé selon les centres par des chirurgiens thoraciques viscéraux et ou cardiaque, cette implantation ayant lieu le plus souvent au lit du malade. Pour les patients de chirurgie cardiaque, l'implantation d'une assistance périphérique peut être faite au bloc opératoire en post-cardiotomie. Il existe de la littérature sur les abords vasculaires percutanés chez l'enfant, cette technique étant possible pour des canulations artérielles et veineuses à partir de 8 French. Concernant les modalités techniques d'implantation d'une assistance respiratoire véno-veineuse, il existe en fait deux principales modalités techniques utilisables selon le poids de l'enfant et la gravité de la défaillance respiratoire. À partir d'un poids de 3 kg, il est possible de mettre en place dans la veine jugulaire interne droite une canule double lumière. Cette canulation unique permet de réaliser une assistance veineuse continue avec des débits sanguins dans le circuit à un niveau quasi proche du débit cardiaque théorique du patient. La canule présentant deux orifices de drainage cave, proximal dans la veine cave supérieure et distal dans la veine cave inférieure. L'orifice de réinjection est situé latéralement, positionné en regard de l'entrée de l'oreillette droite. La pose de cette canule chez les nouveau-nés est à haut risque de déplacement dans l'oreillette, voire dans le ventricule droit, avec des complications à type de rupture de la paroi ventriculaire rapportée d'environ à peu près 5% des cas, poussant certains centres à ne plus l'utiliser du tout chez le nouveau-né. Pour les patients de plus de 4 kg, une assistance veineuse double canule peut être réalisée, l'ECMO véno-veineuse, en implantant une première canule dans la veine jugulaire interne droite et une seconde canule de réinjection dans une veine fémorale. Cette technique est la plus classique et la plus utilisée chez l'enfant. Elle permet d'avoir un débit sanguin continu sur le circuit, permettant d'obtenir une assistance veineuse totale. Les bénéfices sont liés à de moindres complications iatrogènes intracardiaques et le coût, bien sûr. Cependant, chez le nouveau-né, le petit nourrisson, l'abord fémoral peut être responsable de complications locales importantes à type de thrombose et de perforation. Il est alors indispensable de réaliser une évaluation échographique des vaisseaux afin de discuter de la meilleure taille de canule nécessaire. En cas d'indication d'une assistance circulatoire véno-artérielle, il existe trois techniques différentes de canulation liées au poids de l'enfant. Selon les recommandations de l'ELSO, pour les enfants dont le poids est inférieur à 15 kg, les canules sont placées dans la veine jugulaire interne droite et dans la carotide commune. En effet, l'artère fémorale ne dispose pas à cet âge d'un calibre suffisant pour implanter une canule de bonne taille. À presque 15 kg, les canules seront placées dans la veine jugulaire interne droite et l'artère fémorale, droite ou gauche, avec un pont de reperfusion permettant une vascularisation efficace de la partie distale de la jambe. En cas d'impossibilité de mise en place d'une canule veineuse jugulaire interne droite, par exemple en cas de thrombose, il est possible de mettre en place une canule dans la veine fémorale droite pour les enfants de plus de 15 kg, associée à une canule de réinjection dans l'artère fémorale droite, et toujours avec un pont de reperfusion. Des études récentes sur les complications locales des abords fémoraux, en particulier artériels, font rediscuter le seuil pondéral à 20-25 kg. Par ailleurs, une étude récente montre une augmentation modérée du risque d'AVC chez les enfants ayant une assistante jugulo-carotidienne. En fait, le site de cannulation va être dépendant de la situation clinique du patient, de son poids, de son âge, mais également de la facilité de l'abord chirurgical.
Troisième question, quelles sont les principales complications et le pronostic des méthodes d'assistance respiratoire et ou circulatoire chez l'enfant et ou le nouveau-né?
Les complications hémorragiques sont assez fréquentes au cours d'une assistance, jusqu'à 50% des patients se manifestant principalement par des saignements intracrâniens, 7,5% selon le registre ESSO, au point de ponction des canules, entre 14 à 28% selon les registres de l'ESSO. Ces complications sont plus fréquentes pour les canulations artérielles fémorales. La présence ou les antécédents de cathéter veineux sont des facteurs de risque supplémentaires de thrombose, pouvant empêcher la mise en place des canules. Parmi les autres facteurs de risque identifiés, l'implantation d'une assistance au cours de la première semaine de vie est associée à un plus haut niveau de risque de saignement. La thrombopénie, l'hypofibrinogénémie semblent aussi être significativement associées aux complications hémorragiques. Comme je l'ai indiqué précédemment, il existe également une majoration du risque hémorragique chez les prématurés dont le poids de naissance est inférieur à 2 kg et un terme inférieur à 34 semaines d'aménorrhée. Pour les autres complications, on peut noter les complications infectieuses qui sont rapportées dans la littérature avec une fréquence de l'ordre de 5 à 6% chez le nouveau-né, mais plutôt 18 à 20% chez l'enfant. Du fait de la multiplication des portes d'entrée, de l'immunodépression secondaire à la défaillance vitale, l'assistance est significativement associée à une augmentation du risque d'infection nosocomiale, jusqu'à 64% d'infections secondaires au cours des assistances véno-artérielles pour choc cardiogénique, la majorité étant des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique et les septicémies. La survenue d'infections nosocomiales au cours d'une assistance semble majorée lorsque la durée de celle-ci est supérieure à 10 jours. Les infections accroissent le risque de mortalité, de durée d'assistance, de durée de ventilation mécanique et d'hospitalisation. La fréquence des séquelles neurologiques au cours d'une assistance est estimée à 20% d'après les données récentes de l'ELSO. Elles sont réparties selon les hémorragies intracrâniennes, à peu près 15%, les accidents ischémiques cérébraux, 4 à 5%, les convulsions, 7 à 8%, et bien sûr les morts encéphaliques. De nombreux facteurs augmentent le risque de survenue de telles complications, comme le terme et le poids de naissance, les troubles hémodynamiques avec un pH inférieur à 7,15 ou une réanimation cardio-pulmonaire avant l'implantation. Les assistances circulatoires véno-artérielles sont également associées à une survenue plus fréquente de complications neurologiques. Il existe également des complications néphrologiques qui sont fréquentes et principalement liées à l'insuffisance rénale aiguë, variant entre 50 à 70% selon les études, secondaire à une nécrose tubulaire aiguë. Cette nécrose tubulaire aiguë est probablement d'origine multifactorielle, le bas débit systémique, un flux sanguin non pulsatile et la toxicité des médicaments. La qualité de vie au décours d'une assistance dépend en partie de l'étiologie à l'origine de l'implantation. Les publications concernant ce sujet restent souvent éparses, mais soulignent l'importante variabilité de la qualité de vie en fonction du type de pathologie initiale. En cas d'ECMO implanté pour cardiopathie, cette qualité de vie est souvent qualifiée comme modérée dans plus de 80% des cas. Au cours de la mise en place d'une assistance en période néonatale, hors chirurgie cardiaque, la qualité de vie semble être en partie liée à la durée de l'assistance avec une persistance de difficultés motrices, respiratoires et digestives, principalement chez les patients atteints d'une hernie de coupole diaphragmatique. Les autres indications d'assistance telles que l'inhalation méconiale et les chocs septiques néonataux bénéficient, a priori, d'une qualité de vie normale ou sont atteints d'un déficit neurodéveloppemental mineur.
Merci docteur Morgan Richer de nous avoir parlé des méthodes d'assistance circulatoire chez l'enfant et ou le nouveau-né, qui est un sujet important.